Voilà, merci. Donc ce soir, nous avons deux interventions. Donc je donnerai la parole à Rosa Guittard, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas... Ouais, plus fort, je me bats. C'est un problème de sono, j'ai plus rien. Donc Rosa Guittard, qui est psychanalyste à Rennes, qui est à ME, donc qui va intervenir sur trois mots sur le trajet analytique. Donc elle va parler du trajet analytique. Ensuite, Louis Siskovitch interviendra. Donc Louis Siskovitch, pour ceux qui ne connaissent pas, est psychanalyste à Paris, à ME, et aussi enseignant au Collège de Clinique Psychanalytique de Paris. Donc je donne tout de suite la parole à Rosa.
Trois mots sur le trajet analytique. Ça va, vous m'entendez? Donc, bonsoir à tous. Alors, lorsque j'ai pris connaissance du titre de ce séminaire, qu'est-ce qu'un analysant, m'est venue en tête la réponse que j'avais donnée à un interlocuteur lors d'une soirée. Alors, c'était une soirée où des amis avaient réuni des gens venant d'horizons très divers. Et à un moment de la soirée, entre la poire et le fromage, comme on dit, mon voisin de table m'a demandé, c'est quoi au fond une psychanalyse ? Oula, lui ai-je répondu. Oh, juste en trois mots, me dit-il, pour me sortir de mon embarras. J'ai donc cherché trois mots et j'ai fini par lui dire, bien écoutez, on pourrait résumer le trajet analytique par trois exclamations qui se succèdent dans l'ordre, aïe, hélas, ouf. Alors, je ne sais pas si ces trois mots l'ont beaucoup éclairé, mais je trouve qu'ils illustrent assez bien le parcours analytique. L'analysant commence en effet par exprimer une souffrance face à ce qu'il ressent comme un manque. Aïe donc. Mais il est animé par l'espoir de combler ce manque, ce à quoi s'emploie la quête ou la quequête phallique. L'analyse se poursuit par un hélas, cette quête est impossible à satisfaire, et l'analyse se termine par un ouf, je me sens libérée de la quête d'une jouissance imaginaire qui ne peut qu'échouer répétitivement. Si à la place de trois mots, mon voisin de table m'avait demandé de lui répondre en quatre ou cinq mots, j'aurais pu ajouter après le ouf, ça alors, pour rendre compte de l'identification aux symptômes en fin d'analyse. Néanmoins, tous les analysants ne font pas le même trajet. Cela dépend en partie de celui qui accueille la souffrance du départ. Ainsi, un analysant ne fera pas le même trajet selon que l'analyste vise à renforcer la partie saine du moi ou bien à insister sur le manque à être dans une sorte d'apologie existentialiste du désêtre ou à pointer son doigt vers le réel de la jouissance. Autrement dit, le trajet de l'analysant dépend en partie de la conception que l'analyste se fait de l'acte analytique. En partie seulement, car si l'analyste est responsable de cet acte, les effets de cet acte engagent la responsabilité de l'analysant. C'est lui qui travaille, précise Lacan dans sa conférence à Genève, où il ajoute « La personne qui a fait cette demande d'analyse, vous n'avez pas du tout à la considérer comme quelqu'un que vous devez pétrir. C'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous y faites là ?» Cette question est tout ce pourquoi je m'interroge depuis que j'ai commencé. Lacan ne cesse en effet de s'interroger sur le désir de l'analyste qui préside à l'acte analytique. Or, s'il met en garde les analystes contre des conceptions trop directives, il élabore en même temps une direction de la cure s'acheminant vers l'identification aux symptômes. Est-ce que cela voudrait dire alors ? Est-ce que cela voudrait dire que lorsque le désir de l'analyste n'est pas de pétrir l'analysant, celui-ci se dirige naturellement vers cette identification aux symptômes? On sait que c'est loin d'être le cas. Car pour que cette identification ait lieu, il faut que le sujet affronte son horreur de savoir. Or, c'est cette horreur, qui peut interrompre une analyse ou en tout cas la suspendre pendant un certain temps. Ainsi, certains analysants n'arrivent pas à dire « ouf » faute de pouvoir dire « hélas ». D'autres restent suspendus à cet « hélas » faute de pouvoir conclure par un « ça alors ». Ceux qui n'arrivent pas à dire « hélas » ne sont pas prêts à faire le deuil d'un certain nombre d'illusions, notamment de celles qui leur font croire que c'est de leur position phallique qu'ils tirent ou tireront leur force. Ainsi, cette analysante qui a interrompu son analyse au moment où elle venait d'être élue à un poste de haute responsabilité. « Je reviendrai lorsque mon mandat sera fini », me dit-elle, « car j'ai l'impression que l'analyse met en question tout ce qui fait ma force et j'en ai besoin pour faire face à ce nouveau poste. » Elle est en effet revenue quelques années plus tard, à bout de force et complètement désemparée. C'est paradoxal, me dit-elle. Je devrais être heureuse puisque mon mandat a été une réussite. Mais j'ai l'impression d'avoir joué un rôle et de ne plus savoir qui je suis vraiment. Ce qui est en effet paradoxal, pour ne pas dire tragique, c'est que, comme le souligne Mustapha Safwan, la question de l'être ne se pose qu'à travers le fantasme être ou ne pas être le phallus. Or, poursuit-il, la position phallique a toujours un goût de nécrophilie, car cette jouissance est celle que le sujet trouve dans un mode d'être qui est en même temps une frustration permanente de l'être. Les analysants qui restent suspendus dans le hélas sont ceux qui préfèrent les points de suspension au point final. Ainsi, cet analysant qui a entamé une deuxième tranche d'analyse parce qu'il n'arrivait pas à mettre un point final au livre qu'il était en train de rédiger depuis 20 ans. Le trajet avec son premier analyste avait duré 10 ans. Le point final évoqué pour cet obsessionnel, l'angoisse de la fin, c'est-à-dire l'angoisse de la mort, mais aussi de ce qu'on appelle la petite mort. D'où tous ces rêves à répétition, dans lesquels des tours rivalisantes de hauteur s'érigeaient dans le ciel et où il était pris de vertige à l'idée de chuter d'un de leurs sommets. Il savait, hélas, que son désir vertigineux d'être à la hauteur de ces tours phalliques non détumescentes ne pouvait se finir qu'en cauchemar. Mais y avait-il autre chose en deçà de ces tours qui méritait d'être investies ? Les points de suspension, en maintenant ouverte cette question, lui ont permis pendant longtemps de se laisser bercer par la nostalgie des illusions perdues et de rester ainsi dans une position où l'indécidable et la dérobade le préservaient du risque de tout investissement. Si j'évoque les points de suspension, c'est parce qu'ils expriment l'inachèvement du trajet d'une phrase. En ce sens, ils se connectent très bien avec le terme « analysant » qui évoque également l'inachèvement d'un trajet. Un trajet en cours, un trajet qui achoppe, un trajet dont on ne peut pas dire, un trajet sans fin, etc. On peut ainsi dire que ce signe à trois points ponctue différents moments du trajet analytique avec des significations différentes. Ce signe est en effet polysémique, comme le souligne le linguiste Julien Roux dans l'étude qu'il lui consacre. Ainsi, outre l'indécidable et la dérobade, les points de suspension évoquent l'équivoque, le midir, l'interdit ou l'interdit, l'incomplétude, l'infini, l'indicible, etc. Ces points de suspension, qui ne datent que du XVIIe siècle, ont connu une envolée dans les textes libertins du XVIIIe. À travers leur interdit coquin, ils évoquaient alors l'érotisme et le plaisir de la chair. Dans les textes romantiques du XIXe, il ponctuait plutôt l'indicible de l'effusion sentimentale, le soupir, la pâmoison, l'extase, mais aussi les affres de la passion. Or, toutes ces significations, conclut l'auteur, ont comme dénominateur commun la latence, c'est-à-dire un nom dilatant qui demande à être interprété et dont le sens n'est jamais univoque. Lacan se sert des points de suspension dans son séminaire 19, ou pire. Et dans ses récits, il évoque la connexion que quelqu'un a établie entre les points de suspension avec ce qu'il en est des femmes. Lacan ajoute que ça colle fort bien dans la pratique de dire qu'une femme est un symptôme. Les points de suspension évoquent ici des points d'interrogation. Autrement dit, face à l'indicible de son être, la femme reste une éternelle question. On peut donc dire en effet que les points de suspension se connectent très bien aux symptômes femme, puisque un point c'est tout, trois points ce n'est pas tout. Or, c'est bien de ce pas tout qui mène à il n'y a pas de rapport sexuel dont il est question dans les séminaires 18, 19 et 20, d'un discours qui ne serait pas du semblant, ou pire encore. Ce discours qui ne serait pas du semblant est celui que l'analyste peut lire dans la parole de l'analysant qui ne cesse de faire entendre que de rapport sexuel, il n'y en a point. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'entende le dire. Dans le meilleur des cas, il lui faut un certain temps pour épuiser tous les semblants dont se part l'horreur de savoir qu'il n'y a pas. Or, chez Lacan, comme on sait, le « il n'y a pas de rapport sexuel » vient à la suite d'une série de « il n'y a pas », résultant des effets castrateurs du langage. Il n'y a pas de métalangage, pas de l'autre de l'autre, pas de vrai sur le vrai, etc. Ce dont le sujet a horreur, c'est donc de savoir que le manque dont il se plaint est d'ordre structurel. C'est de cette même horreur que témoigne le discours social qui propose une série de quêtes promettant en plus de jouir, lesquelles ne font qu'échouer répétitivement, provoquant du coup un autre type de souffrance, contingente celle-ci. Stress, burn-out, sentiment d'échec, insatisfaction, ennui, morosité, dépression, etc. En fait, c'est surtout de ces souffrances contingentes que le sujet se plaint. Et le manque qu'il ressent lui semble également contingent, puisqu'il l'interprète comme manque de capacité pour faire face à ces souffrances contingentes. Dès lors, ce qui anime sa demande d'analyse, c'est l'espoir de combler ce manque en améliorant ses capacités et ses performances. Mais cet espoir ne fait pas de celui qui consulte un analysant. La question qui nous intéresse donc, c'est à quelles conditions un sujet en souffrance devient un analysant et à quelles conditions il le reste jusqu'à la fin de la cure. La première des conditions, c'est qu'il se doute, au moins un peu, qu'il y ait pour quelque chose dans le malheur dont il se plaint. Ce doute qui engage la responsabilité du sujet implique donc que le sujet ne se satisfasse pas totalement de l'interprétation qu'il donne à son manque. Ou pour le dire autrement, qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui cloche dans les satisfactions derrière lesquelles il court. S'il n'y a pas un doute qui fasse question et qui travaille le sujet, il ne peut pas en effet se mettre au travail. Le temps pour que cette condition soit au rendez-vous, c'est le temps des entretiens préliminaires. Mais si cette condition est nécessaire pour qu'un sujet devienne un analysant, elle n'est pas suffisante pour qu'il le reste. L'analysant est en effet animé par le désir de savoir ce qui cloche. C'est même ce désir qui s'apparente à l'amour de la vérité qui est à l'origine de l'amour de transfert. Mais en même temps, de cette vérité qu'il n'est autre que celle de la castration, le sujet ne veut rien en savoir. Ce qui fait qu'il se rabat de façon récurrente sur la quête qui masque cette vérité. Et il lui faut donc encore un autre laps de temps pour pouvoir dire, hélas, cette quête repose sur un impossible. C'est que ce que dément précisément le discours commun. Ne dit-on pas impossible n'est pas français. Ce dicton qu'on attribue à Napoléon, on pourrait également l'attribuer au discours capitaliste. Or, c'est bien des impératifs de ce discours, avec le plus de jouir qu'il promet et promeut en contrepartie, qu'est pétri l'analysant d'aujourd'hui. Ce qui fait que même s'il se doute quelque peu du côté illusoire du discours dont il est pétri, il lui faut un certain temps pour s'en dépêtrer. Et ce temps est fait de va-et-vient entre reconduction et désillusion des quêtes impossibles. À côté des questions auxquelles il est confronté par ce va-et-vient, il y a celles auxquelles le confrontent ses rêves, ses symptômes et autres formations de l'inconscient. Question énigmatique qui le lance dans la quête infinie du déchiffrage avec la jouissance qui lui est propre. Pendant ce va-et-vient, l'analysant peut tantôt questionner comment être enfin à la hauteur des impératifs du discours dont il est victime, tantôt questionner l'insatisfaction qui résulte de ce discours. Pour certains, cette insatisfaction se traduit par un sentiment de non-sens de la vie. Pour d'autres, cela se traduit par un désespoir victimal ou par une position revendiquant dommages et intérêts. Ou encore par la revendication ou la nostalgie des grandes causes politiques ou religieuses oscillant entre le désespoir d'un paradis perdu et l'espoir d'une terre promise. Pour d'autres, cela peut se traduire par la nostalgie des pères autoritaires. Ainsi, ce jeune homme, venu consulter pour ses procrastinations récurrentes, qu'il expliquait par le manque d'exigence de ses parents à son égard. La plainte de cet analysant envers ses parents, avec qui il s'entendait par ailleurs très bien, me semble assez représentative. Il n'est pas rare en effet que des jeunes analysants se plaignent aujourd'hui d'un trop de laisser-faire parental ou d'un manque de transmission de but ou de valeur. Alors qu'il y a quelques années, on entendait plutôt la plainte contre des parents trop exigeants et c'est contre leur exigence et leurs idéaux qu'on se révoltait. Ou alors, on culpabilisait de ne pas être à la hauteur de ses idéaux. Ce que l'on entend également chez certains analysants, c'est qu'avec la chute des idéaux dont s'accompagne le discours capitaliste, la culpabilité et la révolte ont subi un déplacement. Un exemple parmi d'autres. Nombre de jeunes analysants nous font part aujourd'hui de leur relation homo ou bisexuelle sans la moindre culpabilité. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, cette sexualité soit n'apparaissait que dans les retours du refoulé et toujours accompagnée de culpabilité, soit elle était revendiquée et s'accompagnait d'une révolte contre les idéaux du discours social qui la taxait d'anormal. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement vis-à-vis des idiots qu'on culpabilise ou qu'on se révolte. Ainsi, à travers le récit des conflits que les analysants rencontrent dans leur couple, on entend soit qu'ils culpabilisent d'un manque de jouir, soit qu'ils en rendent l'autre responsable. Le manque à jouir et l'absence de rapport sexuel étant donc interprétés comme un manque conjoncturel. Dans tous les cas de figure, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut un certain temps pour qu'un analysant épuise ou s'épuise dans sa quête d'impossible et se confronte au manque structurel. Ce manque est encore plus difficile à aborder lorsque le sujet a subi une perte réelle. Perte d'un proche, d'un bien, d'un membre ou d'une fonction physique, perte de santé, etc. Bref, tout ceci pour souligner que si la première condition est nécessaire pour qu'un sujet devienne un analysant, elle n'est pas suffisante pour qu'il le reste. Le travail de l'analysant peut en effet achoper à divers moments de l'analyse. C'est ce que j'ai évoqué à propos des points de suspension. En fait, l'analysant peut achoper, à chaque fois que son espoir de trouver des réponses pour combler son manque se confronte à un « il n'y a pas » de la série, « il n'y a pas de métalangage, pas de l'autre de l'autre, pas de rapport sexuel ». Ces achoppements peuvent se traduire par des affects divers, découragement, déception de la cure analytique, colère, haine, etc. La question est donc, qu'est-ce qui permet à un analysant de faire de ses pas de la négation du « il n'y a pas » un pas de franchissement? Mais comment répondre à cette question autrement que par ce que Lacan appelle l'insondable décision de l'être? Cette décision qui incombe à la responsabilité et donc à l'éthique de l'analysant et sur laquelle l'analyste n'a pas de prise. Franchir ce pas implique que le sujet ne reste pas englué dans les affects que je viens de citer et qu'il accepte de faire le deuil de l'espoir qui a motivé sa demande d'analyse. Qu'il fasse donc le deuil d'un sujet supposé savoir et qu'il assume qu'il n'y a pas de signifiant dans l'autre qui réponde à la question de ce qu'il est, tout en garantissant la vérité absolue. Or, ce pas ne se fait jamais sans mal et sans violence. Violence que l'analysant peut retourner contre soi ou contre l'analyste. Lacan dit qu'une analyse peut se finir dans la haine, cette autre passion de l'être à côté de l'ignorance, soit de l'horreur de savoir. Cette haine radicale peut en effet surgir à chaque fois que le sujet se confronte à un « il n'y a pas ». Achoppement donc de l'analysant qui n'a pas pu franchir ce pas. Or, franchir ce pas implique non seulement assumer les « il n'y a pas », mais se satisfaire au double sens du terme de ce qu'il y a, à savoir la jouissance du réel. Cette jouissance qui ne cesse de se manifester, notamment dans le symptôme, et dont le sujet a également horreur, voire haine, car elle est traumatisante du fait d'être hors sens. Jouissance opaque donc, qui ne cesse de se dérober au savoir du sujet, et vis-à-vis de laquelle le sujet ne peut dire, dans le meilleur des cas, qu'il en est surpris. Ça alors. Pour se satisfaire de cette jouissance, qui fait fi du savoir et de la maîtrise, il faut que le sujet assume ce que sa quête de vérité comporte de mensonge. Mais il faut sans doute également qu'au-delà de l'amour de la vérité et donc de l'amour du mensonge, le sujet soit sensible à la jouissance du réel de son inconscient, c'est-à-dire qu'il accepte d'en être affecté. Non seulement qu'il s'en sente affecté, mais qu'il en vienne à l'affectionner pour pouvoir en dire et en faire quelque chose d'assez satisfaisant. C'est comme ça que je traduis l'insondable décision de l'être. C'est à cette condition que l'analyse peut se finir par une satisfaction, mais qui est autre que celle espérée. On peut ainsi dire, et c'est avec ça que je vais conclure, que si assumer la surprise du « ça alors » est la condition pour mettre un point final à l'expérience du divan, il faut également que l'analysant accepte qu'il restera toujours des points de suspension pour indiquer ce qui ne peut jamais totalement se dire, ni du sujet, ni de ce qu'il en est de sa jouissance. Voilà.
Alors, à Luis Siskovitch, la parole. Tu as le choix du micro. Je ne sais pas si il marche bien.
Après un accent espagnol, un accent argentin. Tiens, celui-là marche. Prends celui-là. Tu veux celui-là?
Ah, c'est ça. Là, ça marche. Donc, j'intitulais mon texte « Devenir analysant ». Pour exister, la psychanalyse n'a pas attendu l'émergence du terme analysant. Mon propos pour ce soir, c'est prolonger les débats de nos soirées en interrogeant ce qui a précédé la proposition de ce terme et ce qui change avec son introduction. Commençons par ce qui a déjà été évoqué. Le terme d'analysant, dans son essence, désigne celui qui fait une analyse. Plus tard, Lacan va donner une extension au terme pour désigner une position dans le discours. Et donc, avec analysant, on va désigner une structure, une position spécifique d'être dans le langage, dans le lien à l'autre. C'est pourquoi le terme peut désigner aussi chez Lacan celui qui est dans la position d'enseignant. Je vais me centrer donc sur celui qui fait l'expérience de l'analyse. Il faut noter que ce terme n'échange pas l'essence de l'expérience, qui, elle, reste la même. L'essence du discours analytique est donnée par une discontinuité, celle de l'écart entre la demande d'analyse et la mise au travail effectif dans l'expérience. La discontinuité n'est pas seulement un écart de temps. Donc, plus que de déterminer ce que le terme d'analysant recouvre, notre intérêt portera sur comment on le devient, analysant, en soutenant l'idée, je ne dis pas la thèse, car elle est déductible chez Lacan, qu'il n'y a pas d'analysant sans l'acte d'un analyste. L'idée que le terme d'analysant désigne une structure est déductible dès sa proposition de l'analyste de l'école, où il s'agit de nommer celui qui est susceptible de devenir analyste, l'analysant. Mais quand Lacan pose que la nouveauté de sa proposition n'est tient qu'au fonctionnement, c'est pour indiquer que la nouveauté n'est pas dans le terme. Ce qui veut dire qu'en soi, ce n'est pas une appellation, ce qui change quoi que ce soit. Quand Lacan ensuite utilise l'appellation psychanalysant, il ajoute, je le cite, « Nous n'avons pas à rendre compte de ce qui le conditionne, au moins ici, il est au départ. » Donc, psychanalysant, c'est juste une appellation. Et si Lacan ne s'attarde pas à ce qui le conditionne, c'est parce que ce qui le conditionne, il l'a posé ailleurs et même bien avant. Notre intérêt porte donc sur ces points, ce qui le conditionne, en partant de ce qu'il pose dans le même texte, au commencement de la psychanalyse et le transfert, dit Lacan. Sauf que le transfert n'est pas une donnée d'emblée dans l'expérience. Dans le commencement de l'analyse, donc le commencement de l'analyse est à distinguer de la rencontre avec un analyste, c'est déjà l'idée de Freud. Pour qu'il y ait ce commencement, il s'agit de voir quelles sont les exigences à poser du côté de l'analysant, ce que tu évoquais, Rosa, mais aussi les exigences du côté de l'analyste. Autrement dit, il s'agit d'explorer ce qui conditionne l'avènement d'un analysant, soit qu'un sujet devienne psychanalysant, ce qui revient à explorer les conditions des productions du transfert analytique. J'ajoute analytique, car le transfert existe en dehors de l'analyse et avant même que le sujet devienne analysant. Il est présent presque à chaque demande d'analyse, mais ce n'est pas à ce transfert auquel se réfère Lacan avec la formule « au commencement et le transfert ». Concernant ce qui est exigé du côté de l'analysant, il y a l'aptitude à faire une analyse et il y a le choix. Sans ces deux conditions, il n'y a pas d'analysant. Est-ce suffisant ? Est-ce que c'est suffisant d'avoir l'aptitude, c'est-à-dire celle d'entrer dans la scène de l'inconscient, puis de faire le choix d'en passer par l'inconscient? Est-ce que l'analyste se limite à dresser constat de ces deux conditions? La question traverse bien des textes de Lacan avant l'introduction du terme d'analysant et pose de façon cohérente une exigence du côté de l'analyste. Ainsi, quand il soutient, avant même le début de son enseignement, l'analyse en termes d'expérience dialectique, ou quand il se réfère plus tard à l'analyse comme l'art de suspendre les certitudes, Lacan fera un pas plus précis dans la direction de la cure, où il aborde l'entrée en analyse en termes de séquence, s'interrogeant sur la place de l'interprétation dans la production du transfert, et on remarque déjà une critique sévère à l'ajournement de l'interprétation. Les remarques ne sont pas toujours convergentes dans ce texte, mais on dégage à plusieurs reprises la nécessité de l'interprétation pour l'installation du transfert. De même, dans le texte de sa proposition, 10 ans plus tard, où le transfert analytique est posé en termes d'un passage nécessitant une institution, au sens d'instituer, le sujet supposé savoir. Or, cette institution, cette instauration du sujet supposé savoir n'est pas dans la continuité de la demande du sujet. L'acte de l'analyste est requis pour la constitution du sujet supposé savoir. De plus, c'est parce qu'il y a un effet transférentiel donnant lieu au sujet supposé savoir que l'analyste est devenu, par ses mouvements, quelqu'un pour un sujet. À partir de quand l'analyste est quelqu'un pour un sujet ? C'est certain que l'analyste est quelqu'un pour l'analysant en devenir à partir du moment où celui-ci a le nom dans sa poche. Mais il est quelqu'un, disons, pas pour les bonnes raisons. Au fond, qu'est-ce qui distingue ces noms d'autres noms d'analystes ? Bien sûr, il y a les critères imaginaires, mais pas uniquement. Les critères imaginaires vont d'un nom qui résonne avec les signifiants de l'histoire du sujet, à des indices subjectifs si on connaît l'analyste par ailleurs. C'est moins imaginaire quand un nom est recommandé, ou quand on regarde dans l'annuaire de l'école pour le choisir. Cela dit, cela ne suffit pas pour extraire de la série d'analystes l'analyste qui deviendra, comme souvent le disent les analysants, mon analyste. On s'aperçoit le plus souvent que ce n'est pas juste une expression, mais une institution. C'est la conséquence d'avoir institué le sujet supposé savoir. L'analyste est devenu quelqu'un pour un sujet. Et c'est pourquoi une analyse ne se réduit pas à l'expérience faite du devenir de ce sujet supposé savoir. Si Lacan distingue à la fin de l'analyse le devenir du sujet supposé savoir et le devenir de l'analyste pour l'analysant, c'est parce que ces deux dimensions, pourtant liées, sont impliquées à l'entrée de l'expérience. Plus essentiellement, il s'agira de savoir dans l'analyse et pour son terme, c'est qu'un analysant fait de ce quelqu'un qui est devenu son analyste. C'est présent dans la proposition. Par exemple, quand Lacan formule, je le cite, que si l'analyste est nommable d'un nom propre, ce n'est pas qu'il se distingue par le savoir. Le savoir préalable doit en effet être mis de côté afin qu'il puisse émerger une certitude d'anticipation du côté du sujet qui est de l'ordre, c'est avec ce partenaire-là que pourra se jouer la partie. Qui n'est pas juste lié à mon avis à la supposition des savoirs. En plus, c'est une décision qui intervient nécessairement après la rencontre. C'est sûr, parfois il y a des certitudes d'avant, mais fondées uniquement par l'imaginaire. Alors, bien évidemment, on peut soutenir que l'analyse est fondée par une double supposition, du côté de l'analysant et du côté de l'analyste. Du côté de l'analysant, c'est la supposition que l'analyse par le déchiffrage de l'inconscient permettra d'obtenir autre chose au sujet que ce qu'il a obtenu jusque-là. Du côté de l'analyste, la supposition que le transfert est susceptible d'avoir un effet sur l'inconscient. Il existe des cas, selon moi, les moins fréquents, mais mon expérience est forcément limitée, où cette double supposition est là d'emblée, dès le début des entretiens. Et les entretiens préliminaires constituent juste la vérification de la mise en place effective de la supposition de l'analysante. Celle de l'analyste ne fait que prolonger celle-là. Ce que j'appelle la mise en place effective, c'est qu'il ne suffit pas qu'un sujet dise à l'analyste qu'il lui suppose un savoir, mais que l'énigme de l'inconscient pousse le sujet à la mobilisation des nouveaux signifiants. Le cas que je pose comme le plus fréquent est celui où la supposition des savoirs, soit l'émergence d'un tiers entre l'analysant et l'analyste, fait suite à l'acte de l'analyste. C'est la raison de ma proposition pour cette soirée. Il n'y a pas d'acte de l'analysant, acte premier, acte de celui qui s'engage dans les dispositifs analytiques, sans qu'il y ait acte de l'analyste. C'est par cet acte que l'analyste devient véritablement quelqu'un pour le sujet. Et c'est par cet acte qui introduit le virage entre aller voir un analyste et dire « mon analyste », qui n'est pas juste une désignation imaginaire. C'est vrai que cette formule est appropriée, car cela désigne quelque chose d'unique et qui n'est pas de l'ordre d'un savoir, mais de la rencontre avec un réel. On fait l'analyse en ayant choisi un réel du côté du partenaire, même si on ne sait pas. On s'aperçoit qu'un réel du côté du partenaire, c'est autre chose qu'un imaginaire ou un symbolique. L'imaginaire serait ici tout ce qu'on peut percevoir de l'analyste et qui peut le mettre dans la série de sujets érotiques forgés par les conditions infantiles de la libido pour le sujet. Le symbolique serait la mise en place du sujet supposé savoir, l'analyste comme complément supposé à l'énigme du sujet. Mais il y a la rencontre avec le réel, un réel dans l'autre. Et je crois que la tâche analysante requiert de ce réel-là. C'est un réel pas nommable, parfois imaginarisé, mais qui fait le ressort du choix de mon analyste. Où mon analyste indique quelque chose d'unique pour un sujet. Pas forcément c'est un réel de l'analyste, mais c'est un réel que le sujet a rencontré. La vraie question, donc, pour moi, pour ce thème de l'année, est la suivante. Est-il possible de rencontrer l'un de l'analyste, ces points qui, pour un sujet, fait le réel de l'analyste, sans qu'il y ait acte de l'analyste ? Je prends cette perspective à partir de l'introduction des discours. Soit je propose qu'on lise la proposition avec le séminaire L'Envers, afin de mieux saisir la proposition qu'est le désir du psychanalyste, c'est son énonciation, laquelle ne saurait s'opérer qu'à ce qu'il vienne en position de X. Résumons le problème, car il concerne les entrées en analyse. À partir des discours, on déduit qu'un sujet hystérique n'est pas forcément dans le discours hystérique. Un sujet hystérique, c'est souvent le cas, peut être dans le discours du maître, qui plutôt que de poser des questions, commande que ça marche. Donc c'est déjà un pas d'obtenir qu'un sujet passe au discours hystérique. Mais le discours hystérique consiste à fabriquer un autre du savoir. Lacan en a donné les partenaires historiques dont l'analyste peut venir actuellement se loger. Nous avons donc déjà un premier pas par l'hystérisation du discours. Françoise Josselin l'avait évoqué à une soirée. laquelle est instituée par l'analyste. C'est l'artifice par lequel un sujet rentre dans le discours hystérique. Lacan dit « introduction structurelle ». Cela veut dire que d'une part, ce discours existe hors analyse, mais également que dans le dispositif analytique, c'est à l'analyste de faire rentrer le sujet dans ce discours. C'est un premier pas pour être analysant. En même temps, il n'est pas suffisant. L'hystérisation, c'est la question posée à l'autre sur un fond d'objet précieux que le sujet serait pour cet autre. C'est en deçà de la tâche analysante qui exige un renversement d'énigme. Soit passer de l'énigme qu'on est pour l'autre à construire un autre, l'analyste devenu énigme. C'est à condition de consentir à loger l'énigme du côté de l'analyste que le sujet devient analysant. Donc ce qu'il s'agit de produire, c'est pas seulement le renversement du discours du maître, un discours hystérique, mais le renversement d'énigme. L'énigme n'est plus du côté du sujet, mais c'est l'analyste comme énigme. Donc, devenir analysant est solidaire de l'opération de renversement de l'énigme. Et l'énigme requiert l'interprétation, celle de l'analyste, soit prendre à charge un énoncé de façon à qu'il laisse comme reste une énonciation. Or, dans ce texte, l'inverse que Lacan pose, que c'est sans ambiguïté que c'est l'institution du discours analytique qui est le ressort du transfert. C'est au fond instaurer un processus qui trouve son cadre pour les deux, analysant et analyste, dans le non-su. Sauf que l'analyste est averti sur ce qu'il s'agit d'obtenir, une différence absolue. C'est à quoi le diagnostic ne donne aucune guide. De façon solidaire à la proposition, Lacan pose que c'est par l'acte analytique qui s'institue l'analyste, mais plus essentiellement, il formule, je le cite, la question est de savoir de quoi l'analyste prend la place pour déchaîner le mouvement d'investissement du sujet supposé savoir, ce qu'on appelle le transfert. C'est donc l'analyste qui est responsable du transfert. Puis, comme Lacan le formule plus loin, l'analyste s'est fait la cause du désir de l'analysant. Ici, Lacan ne dit pas que l'analysant fait de l'analyste la cause de son désir. Poser les choses en termes que c'est l'analyste qui s'est fait cause va exactement dans la direction évoquée avant. Ce n'est pas l'analyste qui fait, mais c'est certain que c'est l'analyste qui instaure le mouvement donnant lieu au virage du discours hystérique où à la place du sujet en position dominante vient l'analyste comme semblant d'objet A. À partir de là, je vais donner mon idée sur la question. Avant l'acte, l'analyste est un nom propre et une image plus ou moins investie par le sujet. C'est ce que j'ai appelé la dimension imaginaire symbolique du transfert. Maintenant, pour qu'on dise au commencement il y a le transfert, il faut que l'analyste devienne quelqu'un pour un sujet. Or, il devient quelqu'un, un être qui s'accepte à une série par le fait du réel. Or, sans l'acte de l'analyste, il peut y avoir la dimension imaginaire, moins sûre la dimension symbolique, mais sûrement pas rencontre avec le réel de l'analyste. Il ne suffit pas donc d'accueillir la demande d'analyse du sujet. Il est nécessaire pour celui-ci, au-delà de l'accueil, la rencontre avec une différence. Il ne suffit pas de dire que le devenir d'une analyse dépend que l'analyste soit à la place de causer le désir du sujet. Il est surtout nécessaire que dans la rencontre avec l'analyste résonne déjà en partie la jouissance du sujet. C'est de cette rencontre que rend compte la formule « mon analyste à moi », quand elle n'est pas uniquement imaginaire symbolique. Il existe à partir de là un savoir chez l'analysant, sur ce passage qui a consisté à devenir analysant. Et forcément, la logique se retrouve à la sortie de la cure. C'est pourquoi une passe réussie, je ne parle pas nécessairement d'une nomination, mais une passe clinique, où le sujet accède à la certitude d'un achèvement vérifiable dans l'après-coup, implique une mise en perspective logique où la fin confirme, avec des modifications, un réel rencontré au départ. Je pose donc que le devenir analysant dépend certes d'une aptitude à s'abonner à l'inconscient. Mais cette aptitude peut rester lettre morte, découragement dans certains cas, laisser un désir qui commence à se faire sentir juste sans l'acte de l'analyste qui pas seulement capte ses désirs, pas seulement il le cause, mais surtout il le produit. Il n'y a pas, selon moi, des désirs d'analyse sans l'acte de l'analyste. Il y a au grand maximum les prémices d'un désir. C'est pour ça que je soutiens que l'acte qui engage une analyse, c'est l'acte de l'analyste. Je voudrais conclure par quelque chose que j'ai laissé de côté, mais directement lié à ce que j'ai avancé. Ce sont deux questions centrales qui se posent dans le contrôle, et parfois pendant très longtemps. Ce sont celles de la structure et quand faut-il passer au divan. Posons-nous la question de pourquoi cela. Je crois que c'est un effet dans le discours véhiculé par les propres analystes. Ces deux questions, je ne dis pas qu'elles sont sans intérêt, mais elles me semblent secondaires. Pourquoi ? Je résume ma position. Une analyse peut parfaitement aller à son terme sans passer par le divan. D'ailleurs, une analyse peut être ratée par une proposition dans la proposition du divan. Par contre, il n'y a pas de ratage par une abstention dans la proposition des divans. De même pour le diagnostic. Ce n'est pas un faux diagnostic ce qui fait le ratage d'une analyse. Qu'est-ce que je retire donc comme étant l'essentiel dans le devenir analysant? Ce n'est pas tant la question du diagnostic qui, elle, est une question des coordonnées des savoirs de la part de l'analyste. On construit en effet progressivement les coordonnées qui nous donnent un repère diagnostique. Mais bien plus important, c'est de saisir quelle est la meilleure position à adopter par rapport au savoir pas encore advenu. La question, comme le dit Lacan, est qu'est-ce qu'il y a à savoir ? C'est le non-su qui donne le cadre du savoir. Le diagnostic ne donne pas le cadre d'une cure, ni de sa terminaison, et relativise absolument l'usage du diagnostic dans la passe. De même, il ne suffit pas de dire que la politique de l'analyse, c'est le silence, de dresser constat ou de s'abstenir, car il y a aussi ce que l'analyste a à dire pour produire un dire de plus, car être analysant, c'est supposer qu'il y a un dire de plus.